L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous parlons du Festival du film judiciaire et notamment de sa première séance qui aura lieu à Ève le 4 avril avec le film Droit dans les yeux de Marie-Francine Lejalus. Et pour en parler, je suis avec Laurent Dufeu de l'association Graines d'Images. Bonjour.
Bonjour.
Puis nous vous présenterons le Salon de l'Alternance qui arrive ce jeudi 4 avril. Et je serai avec Alice Aubry, voilà, qui nous rejoindra tout à l'heure. Enfin, on passera aux chroniques étudiantes avec Marie. C'est parti tout de suite pour notre invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Laurent Dufeu, vous êtes coordinateur de Graines d'Images et programmateur du Festival du film judiciaire. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi consiste ce festival, en fait ?
Alors, en fait, le festival, il est né d'une volonté, en fait, du Conseil départemental de l'accès au droit de la Sarthe, dont le but est de rapprocher, pour le coup, la justice des citoyens par différentes actions, des actions très professionnelles, mais aussi certaines actions orientées vers le grand public. Et donc, il y a eu cette idée d'essayer de faire quelque chose autour du cinéma, qui représente, pour le coup, beaucoup la justice et les questions de justice, et d'essayer, à travers une programmation donner à toucher des questions de justice aux gens de manière un peu différente à travers le cinéma et de cette manière-là, en fait, le CDAD est venu nous voir parce que le CDAD, tout comme Graines d'Images, a une action départementale et donc voulait aussi des séances qui soient pas que sur le Mans mais un peu partout sur le département. Et comme Graines d'Images, on a un réseau de salles sur le département et qu'on rejoint à peu près en tout cas les mêmes ambitions en termes de programmation et de qualité de programmation, le CDAD s'est assez naturellement tourné vers Graines d'Images.
Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce que c'est que l'association Graines d'Images ?
Oui, peut-être commencer par là aussi. Alors, Graines d'Images, c'est une association qui existe depuis maintenant un peu plus de 25 ans et qui est un réseau départemental de salles de cinéma à réessai. C'est-à-dire que le but, en fait, de l'association est d'aider à la diffusion de films à réessai dans les salles du réseau. Globalement, c'est toutes les salles du département, hormis les multiplexes, qui ne font pas forcément ce travail très en profondeur sur certains films et donc du coup on travaille comme ça avec l'ensemble des salles du département dont les cinéastes au Mans et le Royal aussi, voilà, qu'on connaît peut-être plus sur le Mans.
Ça marche. Et alors du coup, pour en revenir à ce festival du film judiciaire, c'est pas sa première édition.
C'est pas sa première édition, c'est sa cinquième. Alors c'est un festival qui est né il y a pourtant un peu plus que 5 ans. Il a une vocation à être annuel, mais entre les années Covid de fermeture des salles, entre quelques petits ratés l'an dernier notamment, il revient enfin cette année. La dernière édition était en 2022, celle d'avant, avant les fermetures des salles Covid, devait être en 2019. Donc voilà, là on a dû avoir 2 éditions en 5 ans seulement, mais l'idée c'est bien de l'avoir tous les ans.
D'accord, ça marche. Et alors, dans quelles salles est-ce que seront projetés les films ? Alors, vous avez parlé des cinéastes, du Royal. Est-ce qu'il y a d'autres salles qui sont concernées ?
Ouais, cette année, alors, en fait, on tient en tout cas à être au moins sur 3 salles sur le département pour essayer un petit peu de couvrir le département. Donc, il y a forcément les cinéastes au Mans, le Rex à Mamers et le cinéma du Kid à La Flèche. Mmh. Et du coup, après, en fonction de la programmation, en fonction des volontés des salles aussi, on ouvre la programmation en fait dans d'autres salles en fonction de si les salles veulent accueillir les programmations et certaines rencontres. Et pour le coup, on est donc au Royal aussi cette année au Mans et à Mulsanne au Centre Simone Signoret.
D'accord, ça marche. Alors, Festival du film judiciaire, est-ce que ça veut dire que ne sont mis en avant que des films de procès ?
Alors non, c'est vrai qu'on a peut-être un peu l'habitude de cataloguer en fait les films autour de la justice en films de procès. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup et il y en a des très connus, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on a un peu cette idée-là. Mais non, l'idée, il est surtout d'aller chercher des questions de justice avant tout un peu différentes traitées à travers les films. Alors je pense que assez souvent, je suis en train d'essayer de me remémorer visuellement les films qu'on a, par exemple, cette année. Je pense qu'à peu près dans chaque film, on doit avoir, mais non, pas dans tous en plus, mais quand même assez souvent des scènes de procès. Mmh. Mais ce n'est pas forcément des films de procès. Je pense qu'il y a 2 ans, par exemple, on avait pu passer 12 hommes en colère, qui était un gros classique, qui lui est un gros film de procès par excellence, qui se passe que dans un tribunal. Mais non, c'est pas le critère principal. Encore une fois, l'idée est plutôt d'aller varier les sujets, d'aborder en tout cas les questions de justice de manière très différente, et d'essayer comme ça d'avoir un panel de films qui peut rassembler de la fiction, du documentaire d'ailleurs, pour essayer de traiter des choses de manière très très large.
Donc c'est un genre à part entière, quoi, le film judiciaire, en fait. Ça peut prendre différentes formes.
Ouais, je sais pas si c'est un genre à part entière. En tout cas, c'est sûr que pour nous, il prend différentes formes et qu'on se cantonne pas à une seule forme qui pourrait être, en tout cas, celle du film de procès. On va bien au-delà de ça pour avant tout s'intéresser au sujet même des films.
Bon, en tout cas, genre ou pas, force est de constater que le cinéma s'empare souvent de ce thème. Pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est un thème qu'apprécie le cinéma ?
Alors, c'est ce qui est assez ambivalent en plus, parce que pour le coup, l'idée du CDAD à l'origine et l'idée de ce festival est de mieux faire connaître la justice, alors qu'effectivement, on en parle beaucoup dans les films. Alors peut-être que parfois aussi, on en parle un peu de façon peut-être un peu caricaturale, mais pour répondre à ta question qui était de dire pourquoi est-ce que finalement, on a beaucoup de films qui parlent de justice. Peut-être parce que aussi la justice, ou en tout cas les questions de justice ou de droit, reviennent très fréquemment dans la vie des citoyens de manière générale, parce que ça peut prendre encore une fois, c'est pas forcément une forme de procès, mais tout le monde a eu des soucis, éventuellement à un moment a eu plus ou moins de près ou de loin affaire à la justice. Donc je pense que c'est quand même il y a des sujets très très proches de nous en fait au final à travers la justice, et puis des questions qu'on pourrait découler comme ça de la justice, qui sont des questions de morale, de bien, de mal, voilà, qui se rapproche quand même de toutes ces questions-là, et de droit de manière plus générale, sont des choses très quotidiennes en fait, donc d'où à mon avis l'idée de les retrouver assez fréquemment dans les films.
Donc ça touche à des questions universelles en fait, quoi.
Oui, globalement, ouais.
Alors on va s'attarder un peu sur le premier film qui sera projeté dans le cadre de ce festival, Droit dans les yeux de Marie-Francine Lejaloux, qui sera projeté à Ève le 4 avril. Alors sur quel sujet porte ce film en fait ?
Alors, c'est un film très étonnant. Alors justement, je trouve que c'est là où le festival joue tout son rôle et qui est très en lien d'ailleurs avec la fonction du CDAD qui organise le festival avec nous. Il y est question en fait des cliniques juridiques, alors quelque chose qui est extrêmement mal connu. Alors c'est assez récent, parce que pour le coup, les cliniques juridiques se sont montées au début des années 2010. Là, le film parle d'une clinique juridique qui est en région parisienne et qui a été la première à être montée en France de mémoire dans ces eaux-là. Au début des années 2010. Et les cliniques juridiques, en fait, ce sont des étudiants en droit, généralement plutôt en 3e, 4e, 5e année, qui, en fait, accompagnés et conseillés du coup par leurs professeurs et par certains avocats, mènent en fait des permanences gratuites à l'attention des citoyens qui ont des problèmes éventuellement de droit, de justice, et qui, par faute de alors, ça peut être parfois de moyens, du coup, ne vont pas directement voir des avocats, par exemple, mais aussi par méconnaissance, en fait, de ne pas savoir vers qui se tourner, vont et passent par les cliniques juridiques. Ça permet à la fois, du coup, à certains citoyens d'avoir un premier rapport à la justice. Et en même temps, ça permet à ces étudiants en droit, quelque part, de se former aussi à leur métier qu'ils apprendront plus tard. Alors, ça reste un conseil bénévole et non payant, du coup, les cliniques juridiques. Donc, c'est une première approche qui n'est pas celle d'un professionnel, mais qui est celle de professionnel en train de devenir professionnel, pour le coup, de professionnel en devenir. Et donc, voilà, ça s'attache à ça. Alors, c'est très peu connu au final. Il n'y en a pas forcément dans toutes les universités, mais pour le coup, nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans l'idée de le passer cette année, c'est qu'on a une clinique juridique en fait à l'Université du Maine, et que pour le coup, des étudiants qui participent à cette expérience de clinique juridique vont pouvoir venir témoigner aussi à la suite du film pour pouvoir échanger.
Donc il y aura un échange après le film avec des étudiants dans la clinique
Exactement, avec certains étudiants et puis avec un de leurs professeurs en droit, du coup, monsieur Chollet, qui les accompagne aussi dans cette mission-là.
Et du coup, la clinique juridique du film, c'est la clinique juridique de quelle université ?
Elle est en Seine-Saint-Denis, donc en région parisienne, dans le 93.
Du coup, c'est un documentaire, c'est pas une fiction ?
C'est un documentaire, oui, c'est un complet documentaire.
Et bon, on va écouter tout de suite le trailer du film Droit dans les yeux.
vous n'êtes pas le salarié licencié. Vous n'êtes pas la femme qui divorce. Vous n'êtes pas l'emprunteur qui n'arrive plus à rembourser son crédit. Vous n'êtes pas celui-là. Vous êtes son conseil. Ça signifie que il faut garder une distance et donc une mesure. Le conflit de vos clients n'est pas votre conflit.
Alors, c'est assez violent, ces mots que prononce cet homme. Qui est-il d'ailleurs ? C'est un formateur, c'est ça ?
C'est, oui, dans mon souvenir, effectivement, c'est un des professeurs de droit qui, à mon avis, les accompagne, du coup, dans cette mission de clinique juridique. Mmh. Alors, oui, ces mots sont forts et en même temps, il dit exactement la place où ils seront en tant que peut-être futur avocat.
Il insiste quand même sur la distance entre le conseiller et le client. Quoi.
Mais parce que je pense que la distance est sans doute importante dans le métier qu'ils auront à faire plus tard. C'est-à-dire que je pense que le rôle d'avocat et de conseil, du coup, est bien là, en fait. C'est-à-dire de ne pas complètement rentrer en empathie. Et quand je dis pas complètement, même certains disent pas du tout, en fait, en empathie avec les gens qui viennent nous voir, pour essayer de conseiller au mieux, en fait, et de garder une espèce de forme de neutralité. C'est un peu toute la figure de l'avocat qu'on peut... qu'on voit pas forcément toujours dans les films, d'ailleurs, parce que souvent, les figures d'avocats dans les films sont des gens qui parfois rentrent en empathie, du coup, avec...
Ils sont très impliqués, souvent.
Ouais, sont très impliqués, alors que je pense que ce qu'on apprend pour le coup, mais je pense qu'on en saura plus jeudi soir en discutant, mais je pense que ce qu'on apprend peut-être plus aux élèves en droit, c'est justement à essayer de garder un peu de distance par rapport à ça, c'est-à-dire de comprendre en fait les cas qu'on a à traiter, mais en même temps d'essayer de ne pas complètement rentrer en empathie avec tout ça.
Oui, mais parce que ce qui est paradoxal pourtant, c'est que le film s'appelle quand même « Droit dans les yeux », quoi, qui implique une certaine relation de confiance et d'implication. Donc il y a quand même peut-être un jeu entre ces deux aspects-là, quoi.
Sans doute, mais je pense que c'est toute la difficulté du métier, par exemple, d'avocat, mais de tous les gens qui travaillent dans ces milieux de la justice et du droit. Hein. C'est de rester sur une espèce de fil, justement, un peu sans forcément complètement basculer d'un côté ou de l'autre.
Et alors, quand on visionne le film, est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'être un peu intrusif Parce que ça doit être assez privé quand même, ce qu'on entend dans ces consultations.
Alors effectivement, c'était un gros risque du film, mais l'intelligence de Marie-Francine Lejalu, la réalisatrice, c'est déjà de ne pas filmer en fait les gens qui viennent pour les problèmes qu'ils ont potentiellement. En fait, tout le film, qui est un espèce... Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il reproduit les films de huis clos de tribunaux, sauf que là, on est dans une toute petite pièce, toute blanche. Mais en fait, par contre, le film s'intéresse et filme uniquement en fait les étudiants qui sont en train du coup d'écouter ces paroles-là. Alors les paroles, on les entend pour le coup de ce qu'il dit, on entend tous les dialogues, mais on ne montre jamais en fait les personnes qui viennent non pas plaider, mais du coup évoquer leur cas. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à ces étudiants. C'est eux qu'on voit. Alors on les voit en même temps. Réagir ou pas, ou subir, ou en tout cas être confronté pour le coup à ces problématiques-là. Et donc il n'y a pas ce voyeurisme en fait qui pourrait y avoir et qui a parfois dans certains films de s'apitoyer peut-être sur certains personnages, etc. Là, le principe du film n'est pas du tout là. Et vraiment de s'intéresser avant tout à ces étudiants. Il y a une petite chose à la fin qui font qu'à un moment on se retourne vers certaines personnes qui viennent plus de leur cas. Mais ça se fait de manière très constructive et très pertinente à la fin du film.
Et alors, pourquoi avoir choisi ce film pour ouvrir le Festival du film judiciaire ?
Eh ben, alors, déjà parce qu'on était intervenu sur d'autres éditions du festival à Lève et pour le coup ça nous intéressait de nouveau cette année d'aller toucher du coup le public des étudiants et notamment ceux qui sont en droit mais pas que, puisque du coup c'est pas parce qu'on est la séance n'est pas réservée aux étudiants de droit et je rassure éventuellement tous les autres étudiants, on comprend parfaitement tout ce qui se dit et il y a pas de, c'est pas un langage technique, c'est pas au contraire, je trouve que c'est vraiment avant tout un film qui vient filmer des étudiants et filmer des jeunes par rapport à une situation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le film est en fait exactement ce que défend le CDAD qui est à la base du festival, c'est-à-dire essayer de faire du lien entre des citoyens, du droit et de la justice, ou encore une fois... tout ça nous apparaît peut-être parfois un peu éloigné et il y a peut-être plein de notions qu'on ne comprend pas. Et...
Ça devrait invoquer le lien humain dans la question de la justice et du droit, quoi.
Le lien humain et peut-être une certaine proximité aussi qui est peut-être plus palpable à travers ce documentaire-là et qu'on espère plus palpable aussi à travers le travail qu'on fait sur le Festival du film judiciaire. C'est le but, encore une fois, du festival, il est là de rendre plus accessibles les questions de justice et de faire en sorte que les gens ne se sentent pas complètement éloignés et ne se disent pas forcément... si j'ai un problème, je ne vais pas voir la justice parce que c'est compliqué, parce que je connais peut-être pas les différents éléments, parce que je ne sais pas qui aller voir. En fait, le but est vraiment là et je trouve que le film se place très bien ici en tant que film d'ouverture.
Alors, il est temps de présenter du coup les autres films du festival. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors oui, rapidement, cette année, du coup, 8 films en tout, donc avec Droit dans les yeux, avec des films, là aussi, en fait, ce que je disais tout à l'heure, qui essaient d'aller, en fait, dans différents endroits et sur différentes thématiques, et avec certaines reprises de films qui nous intéressaient aussi. Mais je commence quand même par Première Affaire, un premier film de Victoria Moussier-Delac, qui sortira fin avril et qui est donc une avant-première et qui sera au Cinéaste et à Mamers. Il sera notamment accompagné au Cinéaste en soirée par une avocate qui viendra parler après le film, puisque en fait le film qui est une fiction traite d'une première affaire menée par une très jeune avocate et qui se retrouve devant un cas et de savoir comment elle réagit. Donc ce sera aussi intéressant d'avoir du coup une avocate qui vient en parler derrière. Et puis les autres films, Je verrai toujours vos visages, qui est un film passionnant qui est sorti il y a 2 ans de Jeanne Henry, sur les questions de justice restaurative. Là aussi c'est des choses qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est-à-dire de confronter des gens qui sont en maison d'arrêt et qui purgent leur peine aux victimes, pour aussi que on ait une autre conscience en fait des peines, alors que ce soit du côté de ceux qui subissent la peine ou de ceux qui l'ont vécu. Mais voilà, le film est assez passionnant et extrêmement touchant.
Il est sorti il y a 2 ans, je pensais que c'était en début 2023.
Il est sorti, alors je dis
parce
il y a 2 ans.
Parce qu'il était nominé au César en plus.
Oui, alors c'est peut-être fin 2022, début 2023, je ne veux plus avoir la date en tête, mais il est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans, oui. D'accord. Effectivement. Rendre la justice, un documentaire, alors pour le coup très complet sur les questions de justice. On aura la chance d'avoir Robert Salis, son réalisateur, qui sera présent le vendredi soir du coup au Cinéaste. Là aussi sur toutes les questions de justice qu'on peut se poser, sur plein de notions qu'on entend peut-être aux informations tous les jours, de c'est quoi une cour d'appel, c'est quoi. Enfin, le film vraiment essaie d'expliquer de manière très concrète comment on rend la justice et quelles sont toutes les strates de la justice en France.
Et alors, est-ce qu'on aura la réalisatrice du film suivant ?
On n'aura pas la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, puisqu'on a essayé d'avoir Justine Trier, mais c'est compliqué aujourd'hui vu le succès du film.
C'est pas étonnant.
Mais on ne pouvait pas passer à côté, en fait, l'idée de bien sûr, le film a déjà été diffusé dans les salles, mais Anatomie d'une chute est un grand film, et on profite du coup du festival pour refaire quelques séances dessus. Parce qu'on sait en plus qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas forcément vu le film.
Dont moi.
Donc venez voir Anatomie d'une chute.
Et
puis si j'égrène encore la programmation, Je vous salue salope, qui est un film très étonnant, alors qui est sous-titré La misogynie à l'ère du numérique, qui est un film qui va nous permettre d'aborder les questions de cyberharcèlement. Il est question de 4 portraits de femmes qui ont une audience publique et qui ont connu de gros problèmes de cyberharcèlement. Et je pense qu'il est assez urgent d'en parler aujourd'hui et surtout de faire comprendre aux plus jeunes, puisqu'aussi on aura beaucoup le film dans le cadre de séances scolaires, quels sont les risques que l'on peut prendre aussi. Parfois on se sent tranquille derrière un écran à pouvoir harceler des gens, sauf qu'aujourd'hui c'est heureusement répréhensible et ce sera l'occasion de faire le point là-dessus. Et puis 2 derniers films, Le procès Goldman de Cédric Kahn, sorti l'an dernier.
Troisième film nominé au César dans votre sélection.
Exactement, qui lui est un pur film de procès historique, qui est un film passionnant. Je pense que c'est l'un des... Il y a très longtemps que moi j'avais vu un film de procès qui est une espèce de... Voilà, vraiment le film de procès par excellence en huis clos. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de procès de ce type-là, en tout cas des 15 dernières années, et particulièrement en France. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ce type de film. Si vous n'avez pas vu le procès Goldman, il faut y courir parce que c'est absolument passionnant. Et puis un dernier film, La nuit du 12 de Dominique Moll, qui, de mémoire, avait aussi été récompensé au César, mais il y a 2 ans, qui là aussi s'intéresse à un cas mené par la police judiciaire. Donc là, on s'intéressera plus au travail de la police judiciaire à travers ce film-là, voilà, qui là aussi est un film très étonnant.
Bien, que de bons films, effectivement, là-bas. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut consulter, d'ailleurs, le programme pour se référer, si jamais, à plus ample informations, plus ample détails?
Alors, pour le coup, à travers le site internet, réseaux sociaux de Graines d'Images, idem pour le CDAD, on retrouve le petit programme papier dans toutes les salles qui accueillent le festival et un petit peu partout dans les lieux publics. Donc voilà, normalement, vous ne pouvez pas passer à côté de l'information des séances.
Eh bien, merci beaucoup Laurent Dufeu pour être venu nous parler du film Droit dans les yeux et du festival du film judiciaire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je vous rappelle que Droit dans les yeux, donc, c'est le 4 avril à Èves, la scène universitaire. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez toujours gagner des places pour Nuit incolore le 3 avril à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Dionysos, l'homme sans trucage.
Je suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte qu'aux États-Unis, une vallée morte de jalousie de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux, le soleil sans lunettes ni autre trucage. Droit dans les yeux, je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Un humain sans trucage.
Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains d'aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui et ceux qui, comme lui, lacèrent les cieux de mille feux sans article, puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y.
Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur, sauve-toi, n'aie pas peur, ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda.
Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage.
De retour dans l'amphi et je suis avec Alice Aubry, chargée de communication de SFC Le Mans Université. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer ce que c'est que le SFC Le Mans Université?
Oui, le SFC, c'est le service de formation continue de Le Mans Université. Donc, c'est tout ce qui va être reprise d'études, formation tout au long de la vie,
Ok, ça marche. Et alors, vous venez nous parler aujourd'hui du Salon de l'Alternance. En deux mots, qu'est-ce que c'est que cet événement ?
Alors, le Salon de l'Alternance, c'est un salon qui est proposé à tous les étudiants de Le Mans Université qui sont en recherche d'alternance pour l'année prochaine. Et le but, c'est de faire rencontrer donc, des entreprises qui cherchent des alternants avec donc, nos étudiants qui sont en recherche d'alternance.
Et alors, où est-ce qu'il aura lieu, ce salon ?
Il aura lieu à l'UT du Mans.
Ok.
Donc, tous les étudiants de l'université sont invités à venir à l'UT du Mans. Petite précision, parce que les étudiants de l'UT du Mans et de Laval participent en parallèle, en complément plutôt de ce salon, au job dating de l'UT.
Okay.
C'est un événement qui est mutualisé.
Ça marche, très bien. C'est important de le spécifier. Est-ce qu'on peut préciser déjà ce que c'est que l'alternance ? Parce que peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde.
Oui, tout à fait. L'alternance, c'est une modalité d'apprentissage qui combine à la fois donc, l'apprentissage théorique et technique à l'université avec donc, un apprentissage en entreprise directement.
D'accord. Et alors pourquoi donc, en immersion dans une entreprise voilà, dans laquelle on travaille en parallèle de ses études quoi.
Exactement.
D'accord. Et alors pourquoi ça peut être un choix pertinent pour une poursuite d'études ?
Alors c'est un choix très pertinent pour une poursuite d'études parce que ça permet donc, d'avoir, pour l'étudiant d'avoir en parallèle donc, de son apprentissage théorique et technique une mise en pratique directement en entreprise. Donc il n'y a pas de temps d'attente un peu comme on pourrait avoir hors alternance. Excusez-moi.
Ouais, ça permet en fait d'avoir une première expérience avant même l'obtention de son diplôme, quoi.
C'est ça.
Ça permet de s'insérer professionnellement.
Ouais, en fait. Tout à fait. Et donc comme ça permet aussi à l'étudiant en fait de prendre confiance en lui sur ses capacités, puisqu'il les applique directement. Il a 3 ans, 2 ans d'études en fonction de son diplôme où il va appliquer toutes ces pratiques-là, donc ça veut dire qu'une fois qu'il rentre dans le monde du travail sur un contrat hors alternance, là, il a vraiment cette confiance en lui, il a ses acquis professionnels et puis cette culture d'entreprise qui est déjà présente.
Ouais, il plonge pas dans le vide, quoi.
C'est ça. Et en plus, il y a quand même des avantages financiers pour les étudiants puisque la formation est prise en charge totalement par l'entreprise. Il bénéficie du même statut qu'un employé, donc tout ce qui va être CE, par exemple, etc., ils y ont droit. Et il y a aussi, par exemple, des aides pour ceux qui ont plus de 18 ans pour passer le permis B.
Et il y a une rémunération aussi, du coup.
Oui, il y a une rémunération, tout à fait, en fonction donc, de l'âge et puis donc, de l'entreprise.
Et alors, est-ce que c'est difficile de trouver une alternance ?
Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Après, c'est pour ça que...
C'est pour ça peut-être que le salon de l'alternance peut être utile. Quoi.
C'est ça. Parce qu'en fait, on a des entreprises qui recherchent des alternants, parce que pour eux, c'est quand même une grosse opportunité de recruter quelqu'un, de le former sur sa culture d'entreprise. Et derrière, on a des étudiants qui recherchent des alternances. Parfois, il peut y avoir un peu de blocage, parce que sur comment tenir un entretien, rédiger son CV, son alternance, etc. Et donc, justement, au salon, on propose pour... ces étudiants-là, des ateliers.
Oui, il y a plusieurs ateliers, on va y revenir plus en détail. D'abord, je voudrais savoir quelles seront les entreprises présentes lors de l'événement.
On va avoir des entreprises de tous secteurs différents.
D'accord.
Puisqu'on a à peu près 80 entreprises qui vont venir.
Ah oui, quand même.
Oui, 80 entreprises.
ça fait beaucoup, effectivement.
Ça fait beaucoup, effectivement. Donc, sur le campus du Mans, il y en a une trentaine sur le campus de Laval.
Ok.
Et petite précision aussi, pour les études, parce que sur le campus de Laval, on a l'IUT et le droit. Le droit vont avoir une suite, en gros, de la salon de l'alternance le 10 avril. Voilà, mais si on revient sur le 4 avril, on va avoir donc près de 80 entreprises qui vont venir. Donc vraiment tous secteurs différents. On a des banques, on a des cabinets d'études, on a de l'industrie...
Il y a tous les secteurs un peu, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et alors, comment vont se passer ces rencontres entre étudiants et professionnels, les entreprises ?
Eh bien, en fait, les entreprises seront sur des stands et répartis dans plusieurs salles de l'IUT. Et donc, les étudiants sont amenés à venir rencontrer les entreprises. Donc déjà, pour discuter avec eux de leur culture d'entreprise, de leurs opportunités d'alternance, etc. Donc, se créer leur réseau pro. Et si les profils correspondent, ils ont la possibilité de passer un entretien directement sur place.
D'accord, ok. Déjà un entretien d'embauche sur place pendant le salon de l'alternance.
C'est ça. Alors ça peut être un pré-entretien, ça peut être, ça peut être un... si vraiment ça correspond super bien. Et ben,
oui, parce qu'il y a souvent plusieurs entretiens avant d'accéder à un poste d'alternance, c'est ça?
Ça peut arriver. Ça dépend des process de recrutement en fait, des entreprises.
Donc il faut donc venir armé, si je puis dire, avec CV, lettre de motivation, tout ça.
Oui, tout à fait. Il faut venir avec son CV, sa lettre de motivation. Et d'ailleurs, on aura une bannette à CV à l'entrée pour les étudiants qui souhaitent nous donner leur CV, qu'on transmettra aux entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, elle peut nous envoyer à l'instant T des offres d'alternance pour certains métiers. Mais il se peut que demain, ils aient d'autres besoins dans un autre métier que propose l'entreprise.
Et en général, quels genres de profils sont recherchés pour un poste d'alternance en fait
Ça, pareil, ça va dépendre en fait de la formation.
Est-ce qu'il faut justifier déjà d'une expérience quelconque dans le domaine dans lequel on postule?
Non, pas forcément. Justement, le but, c'est aussi... On a aussi des étudiants qui sont un peu vierges en fait, de toute expérience professionnelle. Et donc, effectivement, le jeu de l'alternance pour l'entreprise, c'est aussi d'accepter ce fait-là et de la former.
Okay.
Et au contraire, même, c'est même plutôt un atout pour l'entreprise parce que ça lui permet de vraiment la former sur vraiment son domaine, sa culture d'entreprise. Donc,
Alors, pendant l'événement, les étudiants pourront participer à des ateliers, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus maintenant sur ces différents ateliers?
Oui, tout à fait. Il y a 4 ateliers qui vont être proposés pour les étudiants. Donc, on a un atelier qui est le coaching. Donc coaching CV justement et entretien par l'association NQT qui est une association de mentorat. Donc ça c'est des coachings individuels. Alors il me semble que tous les créneaux ont été réservés, mais il ne faut pas hésiter quand même à nous solliciter parce qu'on peut ouvrir d'autres créneaux au besoin.
Alors NQT c'est une association de mentorat, c'est-à-dire?
De mentorat, c'est-à-dire qu'on a des professionnels de différents secteurs qui en fait vont accompagner des étudiants dans leur recherche d'emploi, dans leur recherche de contrat.
Ok. Alors, c'est un atelier qui porte sur la rédaction de CV, de lettres de motivation. Est-ce que les étudiants ressentent des difficultés par rapport au CV ou aux lettres de motivation? C'est un enjeu important pour eux?
Oui, ça peut être un exercice assez stressant pour un étudiant de rédiger sa lettre de motivation.
Et c'est pas forcément évident à faire du premier coup, quoi.
Non, il faut parler de soi, mettre en avant ses qualités. C'est pas toujours quelque chose d'évident à faire, finalement.
Surtout quand, comme vous disiez tout à l'heure, on est vierge de toute expérience professionnelle, on sait pas forcément quoi mettre, tout ça.
D'accord. Exactement.
Donc, il faut donner des conseils pour rédiger CV et lettre de motivation quand on part de rien, entre guillemets.
C'est ça, même si on part de quelque chose, après, on peut toujours réactiver un peu ses savoirs lors de cet atelier-là.
Alors, un autre atelier porte sur les codes vestimentaires, l'attitude à avoir pendant un entretien. C'est un atelier proposé par l'association La Cravate Solidaire. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, La Cravate Solidaire, donc, c'est une association en fait, qui justement accompagne donc, là, les étudiants, mais ça peut être aussi des personnes en recherche d'emploi, sur tout ce qui va être effectivement savoir-être. En entretien, donc la posture, les vêtements aussi. Ils peuvent aussi proposer des vêtements pour les entretiens.
D'accord.
Et donc là, effectivement, il y a un atelier, plusieurs ateliers d'ailleurs sur la journée, pour accompagner les étudiants donc, pour travailler leur posture, etc. Et notamment sur travailler sur la première impression, puisque les 5 premières minutes, elles sont en fait super importantes dans un entretien.
Ok, d'accord. C'est là-dessus que tout se joue, quoi.
Pas tout, mais on va dire quand même une grande partie.
Ça marche. Alors, le service d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université donne quant à lui un atelier sur la gestion de son profil LinkedIn. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un outil indispensable quand on cherche à s'insérer professionnellement?
C'est un outil très fort pour l'insertion professionnelle.
Ça fonctionne comment, en fait, LinkedIn?
Y a toute cette partie déjà... offre d'emploi qui est proposée par LinkedIn, mais ça permet aussi de se positionner en tant que professionnel déjà par son CV, parce que LinkedIn nous permet d'avoir un CV très détaillé avec des liens et plein de productions qu'on peut mettre en avant. Et en plus, on peut faire une veille, on peut se mettre en avant sur LinkedIn en proposant, en créant un contenu qui peut être intéressant. et comme ça se faire aussi repérer par les recruteurs.
Il y a un système de mise en réseau des professionnels, quoi. On peut contacter des professionnels qui ont des comptes sur LinkedIn, etc. C'est ça?
Oui, oui, tout à fait. En plus, c'est l'occasion d'aller contacter les professionnels, les RH, même des pairs de nos métiers.
Alors enfin, le dernier atelier dont nous n'avons pas parlé porte sur le statut d'apprenti. Ce sont deux choses différentes en fait, l'apprentissage et l'alternance. Qu'est-ce qui les distingue en fait?
C'est à peu près la même chose.
D'accord.
Là-dessus.
Et alors du coup, sur quoi va porter cet atelier sur le statut d'apprenti en fait? C'est sur des informations légales?
Oui, ben, entre autres, en fait, ça va être vraiment une réunion avec de l'information sur donc, effectivement, le statut d'apprenti, donc le cadre législatif, les droits, les devoirs de l'apprenti. Mais ça permet aussi d'avoir une conversation avec les étudiants qui peuvent se poser des questions sur l'apprentissage, sur comment s'organiser, toute question en fait, que peut se poser un étudiant.
Ça marche. Alors, si aucune des entreprises présentes ne nous intéresse vraiment, ou si l'on n'est pas encore sûr de partir sur de l'alternance, est-ce que ce salon présente tout de même un intérêt?
Oui, justement. En fait, pour répondre à la première question, si aucune entreprise nous intéresse, faut quand même y aller, faut quand même essayer d'ouvrir ses horizons, parce qu'en fait, on peut y aller en se disant « bon, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse », et au final se rendre compte que derrière, y a des métiers ultra riches, que c'est un secteur en fait, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire quotidiennement. Et même si on n'est pas encore accepté en alternance, bah, c'est l'occasion déjà de se créer un réseau professionnel, d'avoir un premier contact, parce qu'après, on peut renvoyer un mail en disant « ah bah, ou appeler, hein, ah bah, on s'est rencontrés au salon de l'alternance, maintenant je suis en recherche d'apprentissage. »
Donc, dans tous les cas, on en ressort gagnant, en fait, quoi.
Oui, tout à fait. D'accord. Puis même, on peut participer aux ateliers. C'est ouvert à tout le monde, hein, qui souhaite envisager son alternance l'année prochaine ou même l'année d'après.
Oui, pour le coup, il y a certains ateliers, en plus, qui peuvent servir même quand on n'a pas l'intention de faire l'alternance. Enfin,
oui.
Je pense à l'atelier CV, tout ça, ça sert dans tous les cas, en fait.
Oui, bah, c'est sûr. Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler les infos pratiques, lieu, heure, inscription ou consulter le programme?
Oui, alors ça se passe passer donc à l'IUT. Alors, pour le salon de l'alternance sur le campus du Mans, ça va se passer à l'IUT du Mans.
D'accord.
Dans le bâtiment principal, le grand bâtiment qui donne sur la grande rue. Au rez-de-chaussée, on va avoir le job dating de l'IUT du Mans. Donc ça, c'est que l'après-midi.
D'accord.
Toute la journée, on a le salon de l'alternance ouvert à tout le monde. Sur le campus de Laval, les salles seront communiquées très prochainement.
Ok.
Mais ça va être à l'IUT de Laval et c'est pareil, c'est l'après-midi, c'est okay. Plutôt en fin d'après-midi. Et pour la deuxième partie, donc pour le droit à Laval, ça va se passer donc, sur le campus de Laval, donc, de droit, et ce sera l'après-midi également.
Et alors oui, juste simplement, où est-ce que du coup on peut consulter le programme ou s'inscrire à des ateliers?
Alors, on peut faire ça sur l'ENT étudiant. Il y a toute une page avec toutes les informations pratiques.
Okay.
Les liens vers l'ENT. Et puis, vous pouvez toujours nous envoyer un mail si vous avez besoin de questions. C'est salonalternance@univ-lemans.fr.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Alice Aubry.
Ben, merci beaucoup.
Merci pour être venue nous parler du Salon de l'alternance. Et c'est le 4 avril sur le campus du Mans et de Laval. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Frustration et The Big ID le 4 avril à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Alistair, 7h du matin.
Toi et moi, c'est pour la vie. Combien de fois je l'ai dit à 7h du matin. Les baisers sans lendemain, rouge à lèvres et tanin à 7h du matin. Je ne trouve plus ma voiture, mais je n'ai plus de voiture, c'est l'erreur du matin. Les gens qu'on rencontre après 7h ne sont pas vraiment ceux qui comptent, ça fait rien. Tout le monde se ressemble, moi je ne ressemble à rien à 7h du matin.
et les moments d'égarement, confettis effervescents à 7 heures du matin. Chez moi ou chez toi, l'endroit ne compte vraiment pas, enfin peut-être si c'est loin. Les gens qu'on invite après 7 heures sont ceux qu'on quitte, et puis après, ça fait rien. À 7 heures du matin. À 7 heures du matin. Rendons-nous, nous sommes cernés. Couchons-nous, nous sommes blasés. À 7 heures du matin. Rappelle-moi ton nom, je suis plus sûr. Oui, je boirai dans ta chaussure si t'y tiens. C'est l'horreur chloroforme, c'est l'horreur du Barnum, et c'est humain. Les gens qu'on rencontre après 7 heures ne sont pas vraiment ceux qui comptent. À 7 heures du matin. À 7 heures du matin. En montant les escaliers à la recherche d'une clé, à 7 heures du matin. Les gens que l'on aime après 7 heures ne sont pas vraiment ceux qui restent. Ça fait rien. 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 Ça fait rien.
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et aujourd'hui, on est avec Marie. Salut Marie.
Salut Charlie.
Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de Kate Bush.
Bah, c'est parti, on t'écoute.
Alors, Kate Bush grandit en Angleterre dans une maison en pleine campagne, dans un cadre bucolique, et c'est en fait ce qui va lui inspirer ses idées poétiques plus tard. Ses frères et ses parents font de la musique, bien que ça ne soit pas leur métier, et à l'âge de 11 ans, son père lui apprend le piano. Elle devient addicte à la musique très vite, elle joue plusieurs heures par jour pour se perfectionner et elle travaille aussi sa voix. Elle écrit des chansons qu'elle enregistre sur magnétophone, et à l'âge de 13 ans, elle a déjà écrit une centaine de chansons. En 1973, l'un de ses frères, qui était ami avec David Gilmour, membre des Pink Floyd, lui fait écouter une démo de Kate. David Gilmour reconnaît son talent et l'invite à enregistrer certaines de ses démos dans son home studio. Kate présente ses démos à des maisons de disques, mais malheureusement, elles ne portent aucun intérêt pour elle. Persuadée qu'elle a un réel talent, Gilmour finance de sa poche une session d'enregistrement à l'Air Studio. Et nous sommes en 1975, les Pink Floyd terminent d'enregistrer l'album Wish You Were Here et Gilmour croise, pendant qu'il enregistre, le directeur général de l'EMI, un grand label britannique, pardon, à qui il fait goûter une démo de Kate. Et c'est à partir de ce moment-là que les maisons de disques vont s'intéresser à elle. En 1976, elle décide qu'elle donnera sa vie à la musique, que ça sera son métier. Elle est aussi passionnée de danse et de mime, elle prend d'ailleurs des cours, ce qui explique notamment ses clips, par exemple, et encore sa présence sur scène. En 1977, elle écrit, et alors là, ça va être compliqué de le prononcer, Wuthering Heights.
Ah oui, d'accord.
Ouais, les Hauts de Hurlevent en français, et enregistre son premier album. La maison de disques envoie le single à certaines radios, tout en leur interdisant de la diffuser avant la sortie de l'album, mais la radio Capital Radio ne respectera pas ses ordres et la passera en douce. Dès la première diffusion, les auditeurs appellent la radio pour demander le titre. L'album sort le 17 février 1978 et gagne très vite le numéro 1 des charts en Europe. Cependant, elle ne perce pas encore aux États-Unis, qui la trouvent trop étrange pour le grand public. Mais on lui propose néanmoins de faire les premières parties de Fleetwood Mac, ce qu'elle refusera. Elle sort son deuxième album Lion Heart en 1978. Elle annonce peu de temps après sa tournée et elle veut intégrer dans celle-ci du mime, de la danse, des effets de lumière, de la magie et elle envisage en fait les concerts comme de véritables spectacles. À savoir aussi que c'est la première à utiliser le micro-casque qui lui permet de chanter tout en dansant sur scène. En juin 1980, elle sort Babushka et c'est un carton. Le single se hisse lui aussi dans les premières places des charts. Kate Bush a essayé de produire elle-même ses chansons, en dehors de Babushka, mais ses choix artistiques ne faisaient pas l'unanimité dans son équipe. Par exemple, elle a enregistré la chanson Lords of the Reedy River dans une piscine désaffectée et elle a chanté des morceaux de la chanson Houdini tout en mangeant une barre de chocolat et en buvant du lait. Alors, on comprend donc les hésitations de ses collègues. Elle sort l'album Dreaming en 1982 et fait face à des critiques mitigées dues au côté expérimental de l'album, plus sombre que les autres et peut-être trop innovant. Et c'est en 1985 qu'elle réussit à conquérir l'Amérique avec le tube Running Up That Hill. Elle arrive même dans les sommets des charts en Allemagne ou encore au Japon. À cause de plusieurs drames à la fin des années 80 et au début des années 90, Kate Bush perd l'envie de se produire sur scène. Elle sort néanmoins l'album The Red Shoes, qui est, comme à l'habitude, un grand succès. Elle prend du temps pour elle et se retire des tabloïds à la fin des années 90 et sort un nouvel album en 2005. C'est le début, en fait, du mythe de Kate Bush et de sa glorification. En 2015, elle propose une série de 15 concerts au HMV Hammersmith Apollo et c'est un succès. En 15 minutes, toutes les places sont vendues. Adele, Björk, Lily Allen ou encore David Gilmour font partie du fan club qui viennent la voir à ses concerts. En 2022, son single Running Up That Hill se hisse numéro 1 grâce à la série Stranger Things. Et c'est la première fois qu'un titre redevient numéro 1 après tant d'années. Aujourd'hui, elle ne se produit plus sur scène autant qu'avant et elle ne produit plus de musique aussi intensément. Mais qu'importe, puisqu'elle est toujours aussi populaire et elle a toujours autant de fans. On peut donc dire que c'est une artiste accomplie.
Eh ben merci beaucoup Marie pour cette chronique sur Kate Bush. Et
merci,
on va l'illustrer tout de suite en écoutant...
Army Dreamers.
Eh ben c'est parti. Strips and ribbons. Now he's sitting in his home. He waits his way. Merci d'avoir écouté l'Amphi. On se retrouve mardi 2 avril pour parler de la programmation d'avril de Eve avec Julie Bordas et découvrir une artiste peintre qui expose en ce moment à la galerie 72. C'est Aurore Boca de Oro. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi, l'émission étudiante.